L'invité de ce jour, c'est Geoffrey Lebourg, jeune auteur à l'origine de pas moins de 7 romans. Le 8e est sorti récemment et débute une septuologie inspirée et inspirante dans la veine de ce qu'a pu écrire J.R.R. Tolkien, Les 7 reliques, tome 1, Le réveil d'Entropia. En seconde partie d'émission, vous retrouverez le portrait d'une lectrice instagrammeuse, Emma, aka Page à Page, sera mon invité. Et pour finir, un conseil lecture pour lequel il faudra attendre un peu car il sort que, pour la rentrée septembre, une avant-première chez La Talente, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. On parlera de moines, de robots et de sens de la vie. Vous avez le programme ? Vous avez hâte, hein ? Allez, on est parti pour le début de ce voyage vers l'été. Il y a parfois des parcours de vie impressionnants, et l'on comprend vite pourquoi certains auteurs se sont mis à écrire, et pour certains, tôt. Geoffrey Lebourg, que vous allez entendre tout de suite, fait partie de ces jeunes talents à suivre. Je vous propose de l'écouter. Geoffrey Lebourg, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue donc dans ce premier podcast Voyage vers l'été. Merci de m'accorder quelques minutes pour parler de vous et aussi de votre talent d'écriture. Pour le coup, j'ai lu donc les 7 reliques, tome 1, Le réveil d'Entropia. On va en parler, mais on va également aussi parler de vos autres créations et aussi de ce qui vous a amené à écrire. Avant ça, j'aimerais quand même vous présenter un peu cette particularité. Vous êtes très jeune, vous avez 25 ans et vous avez commencé à écrire très très tôt, à l'âge de 11 ans, vous disiez. Qu'est-ce qui vous a... D'abord, est-ce que vous avez un souvenir de vos premières lectures ? J'aime bien poser cette première question à tous ceux que j'ai interviewé. Vous vous souvenez du premier livre de fantasy ou de fantastique que vous avez pu lire, qui vous a marqué?
J'ai commencé à lire, j'étais vraiment très jeune, je savais lire vers mes 4 ans. Donc c'était principalement voilà, à l'époque des albums illustrés que j'avais fini par apprendre par cœur à force de les entendre, ça m'a permis de savoir déchiffrer. Par contre, vous dire exactement le premier livre de fantasy, je sais que quand j'avais 6 ans, 6-7 ans, j'avais lu notamment toute la longue série des Cabanes Magiques, ce qui abordait déjà un tout petit peu le folklore du monde. Le premier vrai livre de fantasy, par contre, non, je crois que j'aurais un peu de mal.
Qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de lire ce genre-là ? Il y a forcément une saga ou en tout cas un univers qui vous a qui a lancé en fait cette envie de dévorer les livres en tout cas dans ce domaine-là ?
J'ai toujours une imagination assez foisonnante et c'est vrai aussi que de toute façon en littérature de jeunesse principalement des livres qui font appel justement à cet imaginaire, à la magie, aux créatures fabuleuses. Je pense que voilà, ça s'est imposé un peu comme ça. C'est ce que j'avais sous la main, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que j'ai jamais forcément accroché sur des livres beaucoup plus ordinaires comme la série des Max et Lily par exemple, là, qui se passait vraiment dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est tout simplement que ça faisait vraiment écho à mon propre monde fictif dans ma tête. Et voilà, je suis vraiment tombé dedans dès que j'ai su lire, donc je me suis pas posé la question.
Et justement, est-ce que vous pensez que toutes ces lectures vous ont forgé, ont forgé l'envie aussi d'écrire à votre tour, ou l'envie elle était déjà là même sans lire tous les livres que vous avez pu lire?
Oh non, je pense que ça a joué bien sûr. Il faut avant tout être lecteur avant d'être écrivain, donc même aujourd'hui encore, je sais très bien que tout ce que je continue à lire m'apporte des idées, et donc oui, ça a forgé mon univers, ma personnalité, et sans doute, comme vous dites, l'envie de passer à l'écriture. Je me rappelle assez bien d'une série qui, pour le coup, n'était pas en fantastique, c'était une série sur les animaux, qui m'avait donné l'envie de commencer à faire quelque chose qui était plutôt à vocation écologique à la base, mais en fait, c'est très, très vite devenu... ça n'a pas mené grand part. Par contre, ça m'a donné le pied à l'étrier, j'ai aussi envie pour commencer à écrire la suite.
Alors, j'ai lu dans une interview que vous étiez aussi un grand collectionneur. Pour le coup, je pense qu'en tant que grand lecteur, ça, c'est assez évident. Est-ce que vous avez des maîtres à penser, des auteurs vraiment pour qui vous attachez un profond respect, ou en tout cas où c'est un peu ceux que vous citeriez dès qu'on essaierait de vous demander un peu vos préférences?
J'avoue que je suis rarement fidèle à un auteur en particulier, mais plutôt par série. Mais après, forcément, on doit citer Tolkien, qui a été le père fondateur de toute la fantasy moderne. Plus contemporain, il y a plusieurs auteurs que j'apprécie en effet, Pierre Bottero notamment. Notre française Karina Rosenfeld, donc j'aime beaucoup les descriptions, elle m'a aidé aussi en lisant ses textes à apprendre comment on structure correctement une description. Et puis il y a plusieurs références anglo-saxonnes aussi dans différents genres. Cynthia Williams-Otshima pour la fantasy politique, comme on appelle ça par exemple, sur lequel je suis en train de travailler actuellement.
Alors, justement, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire à 11 ans? On a tant de choses à penser et à vivre. Qu'est-ce qui a déclenché, et est-ce que vous avez été aidé notamment dans vos premiers pas en tant qu'écrivain?
Ce qui a déclenché l'envie d'écrire, c'est la peur. On m'a menacé, on m'a dit: tu vas voir, quand tu vas grandir, toutes les petites histoires que t'inventes en cours de récréation là, tu vas les oublier, tu vas devenir tout à fait normal avec des considérations de gens normaux. J'ai dit non, surtout pas, je ne veux pas. Je veux garder mon imaginaire, et c'est par peur de l'oublier que j'ai commencé à écrire mes tout premières notes. En tout cas, c'était pas encore des récits construits, mais voilà, c'était couché sur le papier ces petites scénettes que j'inventais. Et donc oui, j'avais 11 ans. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est juste le fait d'écrire ou si c'est le fait d'être toujours resté lecteur de fantasy, mais ça ne m'est jamais passé, contrairement à ce qu'on m'avait dit.
Et justement, l'écriture vous aide un petit peu aussi à condenser un peu tout ce que vous aimez dans ce que vous lisez. Est-ce que l'écriture est une forme aussi de dommage personnel un peu à tous ces auteurs que vous avez cités avant?
On peut voir ça comme ça, en effet, oui. C'est vrai que, bien sûr, voilà, je ne prends que ce qui me plaît le plus dans mes sources d'inspiration, et remanié par mon imaginaire, mais voilà, certains récits, quand il y a des points avec lesquels je ne suis pas d'accord, c'est vrai que c'est des choses qui ne vont pas guider ensuite ma plume. Donc, comme vous le disiez, on peut tout à fait voir ça comme un condensé de tout ce que j'aime. Et puis, même personnellement, c'est vrai que l'écriture est un exercice qui est assez formateur, qui m'a aidé, en fait, en me posant des questions, me faire évoluer aussi sur le point de vue personnel, en me mettant à la place de personnages. J'ai été amené aussi à faire plusieurs civilisations qui ont des caractéristiques qui vont être différentes, et ça m'a amené à avoir un regard critique même sur la société contemporaine. Donc c'était vraiment quelque chose qui est un acte de fondateur, et puis un hommage aussi, je suppose.
Alors justement, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc vous avez sorti récemment Les Sept Reliques, tome 1, Le Réveil d'Entropia. Mais il faut bien comprendre que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, c'est votre huitième roman à l'âge de 25 ans. Vous avez notamment également écrit deux trilogies, Les Chroniques des Gardiens, Les Chroniques des Sans-Mêlés. Donc vous avez déjà, vous commencez, en tout cas j'imagine, à avoir plus d'aisance quand il s'agit d'écrire, ou au contraire, chaque nouveau roman est un peu un nouveau recommencement, et en fait, y a toujours une part de difficulté dans le fait d'écrire, parce qu'on entame un nouveau cycle, on entame une nouvelle saga?
Oh, les deux, puisque d'un côté, oui, bien sûr que j'ai plus d'aisance, j'écris plus vite, et même mon style est beaucoup plus affirmé. C'est vrai que, vous disiez Les Chroniques des Gardiens et Les Chroniques des Sans-Mêlés, donc qui sont mes deux premières trilogies, issues notamment des notes que j'avais faites quand j'avais 11 ans. Et je les ai toutes les deux republiées entre-temps en ayant fait d'énormes corrections, parce que le style n'était pas bon du tout, c'était très immature. Donc aujourd'hui, ça, même en les relisant, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça à une époque? Mais voilà, tout simplement parce qu'en effet, mon style et puis même ma maturité personnelle en tant qu'individu, tout ça, ça a beaucoup changé. Et en effet, je n'aime pas faire deux séries qui soient parfaitement identiques. Donc à chaque fois, c'est un genre différent, c'est une façon différente d'aborder les choses, de planifier l'intrigue. Donc ça part de difficultés, mais de la bonne difficulté, du challenge qui me stimule.
Et là, en effet, les sept reliques, c'est aussi des enjeux plus énormes. Autant vos premières sagas, c'était plutôt des trilogies. Là, vous partez quand même sur les sept reliques, donc sept tomes. C'est là encore une autre forme de narration, parce que là, on est encore plus sur le long cours. Donc, il faut davantage étaler, ou en tout cas, avoir beaucoup plus de matière à travailler pour l'intrigue, pour l'histoire.
Ça, c'est certain, oui. Après, ouais, je me suis lancé vraiment sur un gros projet pour ne pas être bridé dans ma créativité. Le fait de faire changer les personnages de continent à chaque tome, ça me permet aussi de renouveler l'apportant d'autres cultures, d'autres faunes, flores, d'autres enjeux, même parfois le climat peut être aussi une nuisance pour les personnages. Et au niveau même du bestiaire magique, et les races qu'on va rencontrer, tout ça me permet, voilà, de ne pas remettre tout le temps les mêmes, ce qui me donne donc, comme vous disiez, de la matière. Mais après, c'est vrai que le plus dur, je pense, quand on fait sur sept tomes, et même s'ils sont moins gros que ce que j'ai pu faire par exemple donc sur mes deux premières trilogies où j'avais des volumes assez épais, il faut quand même essayer d'avoir toujours de l'accroche pour les lecteur, d'avoir un rythme qui tient le coup et pas avoir trop de lenteur, de passages, même si j'alterne entre les passages d'action et les passages plus posés où les personnages vont pouvoir notamment se poser des questions. Mais oui, il faut vraiment avoir ce rythme et essayer d'avoir d'éviter la baisse de régime, en fait. Mmh. Et certains de mes lecteurs, après, je sais par leurs avis, ont déploré que par moment ça n'avance pas suffisamment vite, mais là encore, voilà, je suis le seul à avoir le plan complet de l'histoire, et il faut bien mettre en perspective que sur cette tome, si je fais évoluer mon personnage de manière trop rapide, eh bien je n'aurais plus rien à dire sur la fin.
C'est ça.
Donc tout est soigneusement maîtrisé, il n'y a pas de matière à s'inquiéter.
Et puis j'ai une sensation de générosité en fait dans votre écriture, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Geoffrey Lebourg, il y a vraiment une envie en fait de montrer que ce que vous avez imaginé, cet univers que vous avez créé de votre propre, en tout cas cette accumulation d'idées, crée vraiment un univers presque comment je pourrais le dire, on pourrait quasiment le toucher, tellement en fait vous êtes généreux dans les descriptifs, mais également dans l'explication. En fait, là on n'est pas seulement sur un univers où on a des héros qui se baladent et l'univers se crée au fur et à mesure autour d'eux. Là on a vraiment une sensation de cohérence globale. Et est-ce que justement en tant qu'auteur, vous arrivez à aussi vous y prendre du plaisir, parce que j'imagine que créer un univers d'une densité comme ça, il y a aussi une envie d'exigence, mais il y a un moment où ça peut-être aussi limiter dans les possibilités, ou en tout cas le cadre forcément à un moment crée des barrières peut-être.
Donc oui, il est évident qu'il y a un énorme travail derrière l'alchimie. C'est la première fois que j'étais vraiment sur un seul monde. Le personnage précédent avait vraiment soit aller sur des bouts de monde que j'inventais et que je changeais au bout de quelques pages, ou bien pour les chroniques du Nouveau Monde, qu'est-ce qui était une réinvention de notre planète, donc j'avais quand même déjà des bonnes bases. Et là, j'ai vraiment tout créé de A à Z, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça demande aussi, comme vous disiez, de l'exigence. Je suis toujours très très exigeant envers mes écrits et puis envers moi-même de manière plus générale. Il y a cette volonté de cohérence aussi, oui. Là, c'est aussi ma personnalité. Sur des explications, il faut que tout soit rationnel, quantifiable, même si c'est de la magie. Mais voilà, il y a des lois très précises dans mon univers. Ça n'arrive pas juste parce que, pouf, ça m'arrange dans le scénario. chaque événement est plutôt mûrement réfléchi. Donc oui, c'est le plus difficile en fait sur l'alchimie, c'est surtout de tout créer. Et encore, je n'ai pas fini, bien sûr, puisque je n'en suis pas au bout de la série. Et les continents qui ne sont pas encore explorés, bon, ont juste été esquissés, mais ils vont gagner en profondeur quand ça sera à leur tour. Mais voilà, ça se voit aussi, je pense, comme dans la lecture, qu'il y a vraiment quelque chose derrière où j'ai essayé de bien faire les choses et d'avoir un monde, oui, qui serait tout à fait, peut-être, je ne ferme pas la porte, exploitable sous un support différent, un multimédia ou jeu de plateau ou n'importe quoi. Mais avoir quelque chose, voilà, qui permette d'aller un peu plus loin que cette histoire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai prévues dans mes notes, des endroits qui en fait ne sont pas exploités dans le livre parce que le livre n'est pas assez, voilà, n'est pas assez grand, le scénario ne s'y prêtait pas, mais je pourrais en dire deux fois plus encore sur chaque continent que visite le personnage. Mmh. Et donc, oui, c'est de la générosité peut-être, en tout cas c'est de la passion, et c'est clair que je n'ai jamais perdu cette envie de partager mes histoires, même quand c'est sur les tâches les plus rébarbatives.
Il y a beaucoup de personnages féminins dans ce premier tome. Le seul personnage masculin qui rejoint vraiment le groupe principal arrive plutôt vers la fin. J'ai trouvé ça très chouette, parce que en général, quand on dit fantasy, on pense tout de suite à des personnages un peu clichés masculins, etc. Il y avait aussi cette volonté de créer des femmes fortes dans votre univers.
C'est exactement ce que vous dites. Quand on pense fantasy, surtout de la médiévale fantasy, on pense à des personnages qui sont stéréotypés, donc des gros barbares, plein de muscles, qui articulent trois mots toutes les 10 pages. Donc non, moi j'avais vraiment voulu justement... J'essaye à ma manière d'être féministe dans mes différentes séries. Et là tout particulièrement, oui, d'avoir ce trio féminin qui va rester au cœur de l'action tout au long de l'histoire, même quand il y aura donc des personnages masculins qui vont rejoindre le groupe. L'action sera principalement centrée sur Luan, Amber et donc l'héroïne Cordelia. Parce que oui, voilà, des femmes fortes, chacune à sa manière, chacune avec sa personnalité, mais qui apportent des choses et qui permettent de renouveler aussi un petit peu tous ces stéréotypes de manière générale. J'ai essayé de les éviter, ou en tout cas de jouer avec, de les déconstruire, de les remélanger, ces stéréotypes, pour avoir des personnages plus originaux et puis oui, essayer de mettre en lumière ces femmes. C'est jeune fille aussi, puisque Cordelia est encore en devenir, mais c'est autour d'elle que l'évolution va se concentrer, de voir comment elle va passer de cette orpheline encore très maladroite au début du premier tome à, normalement, à la fin du dernier tome, une femme forte et capable de sauver son monde.
Donc voilà, vous l'entendez, auditeur, une vraie évolution en plus psychologique des personnages, une générosité dans l'écriture, dans les descriptifs, dans l'univers qui nous est détaillé. Ouais, je suis curieux quand même de savoir comment vous présentez justement les 7 reliques à d'éventuels lecteurs. Vous étiez à Épinal mi-juin justement pour présenter vos différents écrits. Comment vous le vendez entre guillemets, enfin, comment vous le présentez ce premier tome des 7 reliques à des gens un peu curieux?
Donc je plante le contexte en expliquant que c'est un monde médiéval fantastique, que après une longue période de paix, il va être menacé par le retour d'un prince démon qui s'appelle Entropia, et que le seul moyen de l'empêcher de détruire le monde, c'est donc de réunir les 7 reliques divines qui sont cachées autour du monde. Et donc là, j'introduis le personnage de Cordelia en disant que c'est juste une jeune fille orpheline, une petite citadine qui n'a aucune propension à l'héroïsme, mais qu'elle va être vraiment désignée contre son gré par un ange pour accomplir cette quête-là, et en fait lui dire en sous-texte, si tu ne le fais pas, personne ne le fera, et donc tout le monde va mourir. C'est un argument de poids. C'est donc à contre-cœur qu'elle va partir dans sa quête, et qu'elle va donc rencontrer quand même ses deux compagnes de voyage, puis d'autres compagnons voilà, qui arriveront par la suite, et qui vont tout de même l'aider, l'escorter, la former, puisque au début elle ne sait pas manier son épée magique, elle n'a pas de pouvoir, elle est tout à fait démunie, et puis donc il y aura voilà, cette préparation physique, et aussi une préparation psychologique, notamment avec Amber qui joue le rôle de mentor, et qui va donc l'aider à se faire son opinion sur le monde, et dans... sur ce monde-là, et par rigoler sur le nôtre aussi, en fait, puisque je m'en inspire quand même. tu mets aussi l'accent, donc, sur, comme je le disais, sur le fait que les stéréotypes, je les ai déconstruits. On n'a pas un elfe, un barbe, un sorcier. J'essaie d'avoir des personnages qui sont plus dynamiques. Et enfin, voilà, ce petit côté course contre la montre. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la montre, qui est un petit peu embêtant et qui ne va pas manquer de les faire se plaindre. Sachant aussi que, donc, au cours du grand voyage, il y aura des villages dans lesquels Loro va faire étape. Certains de ces villages vont être menacés par des difficultés, voilà, qui ne sont pas toxiques non plus aux démons, en tout cas. Et en aidant les villageois, pour Cordelia et pour son équipe, ça va faire en fait une sorte d'entraînement avant d'avoir un combat particulièrement ardu pour récupérer donc chaque relique, puisque le démon Tropia lui a placé ses lieutenants pour les garder. Et donc là, c'est un petit clin d'œil à l'univers du jeu de rôle. On pourrait traduire ça en quête secondaire et puis en boss de fin.
C'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue justement en lisant votre livre, et notamment quand j'ai vu le personnage de la Drow, donc c'est ces elfes ouais, qui vivent sous terre. Je n'ai pas pu penser aux écrits de Salvatore, notamment avec Drizzt, les aventures de Drizzt dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc il y a bien aussi pas mal de références liées au jeu de rôle.
C'est devenu, même si en effet, comme ce sont des créatures, notamment les Drow, qui ont été inventées par Donjons et Dragons, on va après parler. J'ai oublié, mais ça a été, voilà, c'est devenu vraiment dans la culture populaire maintenant d'avoir différentes races elfiques, notamment ces elfes noirs qui sont en général présentés comme des créatures caverniques, sanguinaires. Moi justement, ma Drow, elle est gentille, elle l'explique, voilà, je fais partie des rares qui ont réussi à se sauver vers la surface et à vivre au grand soleil et qui sont tout à fait gentils. Et en effet, oui, après quelques petits clins d'œil, voilà, c'est une main tendue au jeu de rôle quand je parle des guildes marchandes, quand je parle des vocations que peuvent emprunter certaines personnes. Mais ce n'est plus, même si c'est un contexte un peu jeu de rôle, l'histoire, elle, n'aura pas grand chose à voir avec un jeu de rôle. On est quand même avant tout sur une histoire, comment dire, une vraie quête héroïque fantasy.
Avec des enjeux, et en tout cas on a hâte de pouvoir découvrir le tome 2 qui, si je me trompe pas, sortira à la rentrée.
Oui, on n'a pas encore de date précise, mais ça serait le 26 septembre à confirmer. En tout cas, ça sera courant septembre, ça c'est certain.
Très
pour
bien.
Le tome 2, La Bouche de l'Enfer.
Oh, en plus du coup, les auditeurs ont le nom de ce deuxième tome en avant-première. Eh bien, écoutez, merci Geoffrey Lebourg. Voilà, j'espère, auditrices et auditeurs, que cette présentation vous aura donné envie. Hein, vous le savez, comme d'habitude, j'essaie d'en dire à la fois beaucoup, mais pas trop, pour vous laisser aussi la surprise de cette lecture, et en tout cas de ce premier tome qui, pour moi, est extrêmement prometteur, et j'attends la suite avec impatience. Merci beaucoup Geoffrey Lebourg, et à très vite, pourquoi pas dans un prochain voyage.
Oui, merci à vous, et puis passez donc une bonne journée.